Deux jours après cette scène avec son fils, le vieux Séchard, qui se vit encore à lui 20 jours avant de se livrer aux occupations de la vendange, accourut chez sa belle-fille, amenée par son avarice. Il ne dormait plus. Il voulait savoir si la découverte offrait quelque chance de fortune, et pensait à veiller au grain, selon son expression. Il vint habiter au-dessus de l'appartement de sa belle-fille, une des deux chambres en mansarde qu'il s'était réservée, et vécut en fermant les yeux sur les dénuements pécuniaires qui affligeaient le ménage de son fils. On lui devait les loyers, on pouvait bien le nourrir. Il ne trouvait rien d'étrange à ce qu'on se servît de couverts en fer étamé. « J'ai commencé comme ça, » répondit-il à sa belle-fille quand elle s'excusa de ne pas le servir en argenterie. Marion fut obligée de s'engager envers les marchands pour tout ce qui se consommerait au logis. Kolb servait les maçons à 20 sous par jour. Enfin bientôt, il ne resta plus que 10 francs à la pauvre Ève qui, dans l'intérêt de son enfant et de David, sacrifiait ses dernières ressources à bien recevoir le vigneron. Elle espérait toujours que ses chatteries, que sa respectueuse affection, que sa résignation attendrirait l'avare. Mais elle le trouvait toujours insensible. Enfin, en lui voyant l'œil froid des cointés de Petit Clos et de Cérisé, elle voulut observer son caractère et deviner ses intentions. Mais ce fut peine perdue. Le père Séchard se rendait impénétrable en restant toujours entre deux vins. L'ivresse est un double voile. À la faveur de sa griserie, aussi souvent jouée que réelle, le bonhomme essayait d'arracher à Ève les secrets de David. Tantôt il caressait, tantôt il effrayait sa belle-fille. Quand Ève lui répondait qu'elle ignorait tout, il lui disait « Je boirai tout mon bien, je le mettrai en viager. » Ces luttes déshonorantes fatiguaient la pauvre victime qui, pour ne pas manquer de respect à son beau-père, avait fini par garder le silence. Un jour, poussée à bout, elle lui dit « Mais mon père, il y a une manière bien simple de tout avoir. Payez les dettes de David, il reviendra ici, vous vous entendrez ensemble. » « Ah, voilà tout ce que vous voulez avoir de moi » s'écria-t-il. « C'est bon à savoir. » Le père Séchard, qui ne croyait pas en son fils, croyait aux cointés. Les cointés, qu'il alla consulter, l'éblouirent à dessein en lui disant qu'il s'agissait de millions dans les recherches entreprises par son fils. « Si David peut prouver qu'il a réussi, je n'hésiterai pas à mettre en société ma papeterie en comptant à votre fils sa découverte pour une valeur égale, » lui dit le grand cointé. Le défiant vieillard prit tant d'informations en prenant des petits verres avec les ouvriers. Il questionna si bien Petit Clos en faisant l'imbécile, qu'il finit par soupçonner les cointés de se cacher derrière Métivier. Il leur attribua le plan de ruiner l'imprimerie Séchard et de se faire payer par lui en l'amorçant avec la découverte. Car le vieil homme du peuple ne pouvait pas deviner la complicité de Petit Clos, ni l'être amourdi pour s'emparer tôt ou tard de ce beau secret industriel. Enfin un jour, le vieillard exaspéré de ne pouvoir vaincre le silence de sa belle-fille et de ne pas même obtenir d'elle de savoir où David s'était caché, résolut de forcer la porte de l'atelier à fondre les rouleaux, après avoir fini par apprendre que son fils y faisait ses expériences. Il descendit le grand matin et se mit à travailler la serrure. « Eh bien, que faites-vous donc là, papa Séchard ?» lui cria Marion qui se levait au jour pour aller à sa fabrique et qui bondit jusqu'à la tromperie. « Ne suis-je pas chez moi, Marion ?» fit le bonhomme honteux. « Ah ça, devenez-vous voleur sur vos vieux jours ? Vous êtes à jeun, cependant. Je vais compter cela tout chaud à madame. »« Tais-toi, Marion, » dit le vieillard en tirant de sa poche 2 écus de 6 francs. « Tiens !»« Je me tairai, mais n'y revenez pas, » lui dit Marion en le menaçant du doigt, « ou je le dirai à tout Angoulême. » Dès que le vieillard fut sorti, Marion monta chez sa maîtresse. « Tenez, madame, j'ai soutiré 12 francs à votre beau-père, les voilà !»« Et comment as-tu fait ? Ne voulait-il pas voir les bassines et les provisions de monsieur, histoire de découvrir le secret ? Je savais bien qu'il n'y avait plus rien dans la petite cuisine, mais je lui ai fait peur comme s'il allait voler son fils, et il m'a donné 2 écus pour me taire. » En ce moment, Basile apporta joyeusement à son amie une lettre de David, écrite sur du magnifique papier, et qu'elle lui remit en secret. « Mon Ève adorée, je t'écris à toi la première sur la première feuille de papier obtenue par mes procédés. J'ai réussi à résoudre le problème du collage en cuve. La livre de pâte revient, même en supposant la mise en culture spéciale de bon terrain pour les produits que j'emploie, à 5 sous. Ainsi, la rame de 12 livres emploiera pour 3 francs de pâte collée. Je suis sûre de supprimer la moitié du poids des livres. L'enveloppe, la lettre, les échantillons sont de diverses fabrications. Je t'embrasse. Nous serons heureux par la fortune, la seule chose qui nous manquait. Tenez, dit Ève à son beau-père en lui tendant les échantillons. Donnez à votre fils le prix de votre récolte et laissez-lui faire sa fortune. Il vous rendra 10 fois ce que vous lui aurez donné, car il a réussi. Le père Séchard courut aussitôt chez les Cointet. Là, chaque échantillon fut essayé, minutieusement examiné. Les uns étaient collés, les autres sans colle. Ils étaient étiquetés depuis 3 francs jusqu'à 10 francs par rame. Les uns étaient d'une pureté métallique, les autres doux comme du papier de Chine. Il y en avait de toutes les nuances possibles du blanc. Des juifs examinant des diamants n'auraient pas eu les yeux plus animés que ne l'étaient ceux des Cointet et du vieux Séchard. « Votre fils est en bon chemin, dit le gros Cointet. Et bien payer ses dettes, dit le vieux Pressier. Bien volontiers s'il veut nous prendre pour associés, répondit le grand Cointet. Vous êtes des chauffeurs, s'écria l'ours et retiré. Vous poursuivez mon fils sous le nom de Métivier, et vous voulez que je vous paye, voilà tout. Pas si bête, bourgeois. Les deux frères se regardèrent, mais ils se continrent. Nous ne sommes pas encore assez millionnaires pour nous amuser à faire l'escompte, répliqua le grand Cointet. Nous nous croirions assez heureux de pouvoir payer notre chiffon comptant, et nous faisons encore des billets à notre marchand. Il faut tenter une expérience en grand, répondit froidement le grand Cointet, car ce que réussit dans une marmite échoue dans une fabrication entreprise sur une grande échelle. Délivrez votre fils. Oui, mais mon fils en liberté m'admettra-t-il comme son associé? Demanda le vieux Séchard. Ceci ne nous regarde pas, dit le grand Cointet. Est-ce que vous croyez, mon bonhomme, que quand vous aurez donné 10 000 francs à votre fils, tout sera dit? Un brevet d'invention coûte 2 000 francs. Il faudra faire des voyages à Paris. Puis, avant de se lancer dans des avances, il est prudent de fabriquer, comme dit mon frère, 1 000 rames, risquer des cuvées entières afin de se rendre compte. Voyez-vous, il n'y a rien dont il faille plus se défier que les inventeurs. Moi, dit le grand Cointet, j'aime le pain tout cuit. Le vieillard passa la nuit à ruminer ce dilemme. Si je paye les dettes de David, il est libre, et une fois libre, il n'a pas besoin de m'associer à sa fortune. Il sait bien que je l'ai roulé dans l'affaire de notre première association. Il n'en voudra pas faire une seconde. Mon intérêt serait donc de le tenir en prison, malheureux. Les Cointet connaissaient assez le père Séchard pour savoir qu'il chasserait le compagnie. Donc, ces 3 hommes disaient, pour faire une société basée sur le secret, il faut des expériences. Et pour faire ces expériences, il faut libérer David Séchard. David, libéré, nous échappe. Chacun avait de plus une petite arrière-pensée. Petit Claude se disait, après mon mariage, je serai franc du collier avec les Cointet, mais jusque-là, je les tiens. Le grand Cointet se disait, j'aimerais mieux avoir David sous clé, je serai le maître. Le vieux Séchard se disait, si je paye ses dettes, mon fils me salue avec un remerciement. Ève attaquée, menacée par le vigneron d'être chassée de la maison, ne voulait ni révéler l'asile de son mari, ni même lui proposer d'accepter un sauf-conduit. Elle n'était pas certaine de réussir à cacher David une seconde fois aussi bien que la première. Elle répondait donc à son beau-père « Libérez votre fils, vous saurez tout !» Aucun des 4 intéressés qui se trouvaient tous comme devant une table bien servie n'osait toucher au festin, tant ils craignaient de se voir devancer, et tous s'observaient en se défiant les uns des autres. Quelques jours après la réclusion de Séchard, Petit Claud était venu trouver le grand Cointet à sa papeterie. « J'ai fait de mon mieux, lui dit-il. David s'est mis volontairement dans une prison qui nous est inconnue, et il y cherche en paix quelques perfectionnements. Si vous n'avez pas atteint votre but, il n'y a pas de ma faute. Tiendrez-vous votre promesse ?»« Oui, si nous réussissons, » répondit le grand Cointet. « Le père Séchard est ici depuis quelques jours, il est venu nous faire des questions sur la fabrication du papier. » Le vieil avare a flairé l'invention de son fils, il en veut profiter. Il y a donc quelque espérance d'arriver à une association. Vous êtes l'avoué du père et du fils. Ayez le Saint-Esprit de les livrer, reprit Petit Claud en souriant. Oui, répondit Cointet. Si vous réussissez ou à mettre David en prison, ou à le mettre dans nos mains par un acte de société, vous serez le mari de Mademoiselle de La Haye. Est-ce bien là votre ultimatum? Dit Petit Claud. Yes! Dit Cointet, puisque nous parlons des langues étrangères. Voici le mien en beau français, reprit Petit Claud d'un ton sec. Ah, voyons, répliqua Cointet d'un air curieux. Présentez-moi demain à Madame de Sénonches. Faites qu'il y ait pour moi quelque chose de positif. Enfin, accomplissez votre promesse. Ou je paye la dette de ses chars et je m'associe avec lui en revendant ma charge. Je ne veux pas être joué. Vous m'avez parlé net, je me sers du même langage. J'ai fait mes preuves, faites les vôtres. Vous avez tout, je n'ai rien. Si je n'ai pas de gage de votre sincérité, je prends votre jeu. Le grand Cointet prit son chapeau, son parapluie, son air jésuite, et sortit en disant à Petit Claud de le suivre. « Vous verrez, mon cher ami, si je ne vous ai pas préparé les voies, » dit le négociant à l'avoué. En ce moment, le fin et rusé papetier avait reconnu le danger de sa position, et vu dans Petit Claud un de ces hommes avec lesquels il faut jouer franc jeu. Déjà, pour être en mesure et par acquis de conscience, il avait, sous prétexte de donner un état de la situation financière de Mademoiselle de La Haye, jeté quelques paroles dans l'oreille de l'ancien consul général. « J'ai l'affaire de Françoise, car avec 30 000 francs de dot aujourd'hui, dit-il en souriant, une fille ne doit pas être exigeante. »« Nous en parlerons, avait répondu Francis du Hautoy. Depuis le départ de Madame de Bargeton, la position de Madame de Sénonches est bien changée. Nous pourrons marier Françoise à quelque bon vieux gentilhomme campagnard. »« Et elle se conduira mal, dit le papetier en prenant son air froid. » Et mariez-la donc à un jeune homme capable, ambitieux, que vous protégerez et qui mettra sa femme dans une belle position. Nous verrons, avait répété Francis. La marraine doit être avant tout consultée. À la mort de Monsieur de Bargeton, Louise de Nègrepelisse avait fait vendre l'hôtel de la rue du Minage. Madame de Sénonches, qui se trouvait petitement logée, décida Monsieur de Sénonches à acheter cette maison, le berceau des ambitions de Lucien et où cette scène a commencé. Zéphirine de Sinonche avait formé le plan de succéder à Madame de Bargeton dans l'espèce de royauté qu'elle avait exercée, d'avoir un salon, de faire enfin la grande dame. Une scission avait eu lieu dans la haute société d'Angoulême entre ceux qui, lors du duel de Monsieur Bargeton et de Monsieur de Chandour, tinrent qui pour l'innocence de Louise de Nègrepelisse, qui pour les calomnies de Stanislas de Chandour. Madame de Sinonche se déclara pour les Bargeton et conquit d'abord tous ceux de ce parti. Puis, quand elle fut installée dans son hôtel, elle profita des accoutumances de bien des gens qui venaient y jouer depuis tant d'années. Elle reçut tous les soirs et l'emporta décidément sur Amélie de Chandour qui se posa comme son antagoniste. Les espérances de Francis du Hautoy, qui se vit au cœur de l'aristocratie d'Angoulême, allaient jusqu'à vouloir marier Françoise avec le vieux monsieur de Sévrac, que Madame du Brossard n'avait pu capturer pour sa fille. Le retour de Madame de Bargeton, devenue préfète d'Angoulême, augmenta les prétentions de Zéphirine pour sa bien-aimée filleule. Elle se disait que la comtesse Sixte du Châtelet userait de son crédit pour celle qui s'était constituée son champion. Le papetier, qui savait son Angoulême sur le bout du doigt, apprécia d'un coup d'œil toutes ces difficultés. Mais il résolut de se tirer de ce pas difficile par une de ces audaces que Tartuffe seul se serait permise. Le petit avoué, très surpris de la loyauté de son commanditaire en chicane, le laissait à ses préoccupations en cheminant de la papeterie à l'hôtel de la rue du Minage, où sur le palier, les deux importuns furent arrêtés par ces mots. « Monsieur et Madame des Jeunes !»« Annoncez-nous tout de même !» répondit le grand Cointet. Et sur son nom, le dévot commerçant, aussitôt introduit, présenta l'avocat à la précieuse Zéphirine, qui déjeunait en tête à tête avec Monsieur Francis du Hautoy et Mademoiselle de La Haye. Monsieur de Sénonches était allé, comme toujours, ouvrir la chasse chez Monsieur de Pimentel. Voici, madame, le jeune avocat avoué de qui je vous ai parlé et qui se chargera de l'émancipation de votre belle pupille. L'ancien diplomate examina Petit Claud, qui, de son côté, regardait à la dérobée la belle pupille. Quant à la surprise de Zéphirine, à qui jamais Cointet ni Francis n'avaient dit un mot, elle fut telle que sa fourchette lui tomba des mains. Mademoiselle de La Haye, espèce de pie grièche à figure rechignée, de taille peu gracieuse, maigre, à cheveux d'aplomb fade, était, malgré son petit air aristocratique, excessivement difficile à marier. Ces mots, père et mère inconnus de son acte de naissance, lui interdisaient en réalité la sphère où l'amitié de sa marraine et de Francis la voulaient placer. Mademoiselle de La Haye, ignorant sa position, faisait la difficile. Elle lui rejetait le plus riche commerçant de l'Houmeau. La grimace assez significative inspirée à Mademoiselle de La Haye par l'aspect du maigre avoué, Cointet la retrouva sur les lèvres de Petit Claud. Madame de Sénon chez Francis paraissait se consulter pour savoir de quelle manière congédier Cointet et son protégé. Cointet, qui vit tout, pria M. du Hautoy de lui accorder un moment d'audience et passa dans le salon avec le diplomate. « Monsieur, lui dit-il nettement, la paternité vous aveugle. Vous marierez difficilement votre fille. Et dans votre intérêt à tous, je vous ai mis dans l'impossibilité de reculer. Car j'aime Françoise comme on aime une pupille. Petit Clos, c'est tout. Son excessive ambition vous garantit le bonheur de votre chère petite. D'abord, Françoise fera de son mari tout ce qu'elle voudra. Mais vous, aidé par la préfète qui nous arrive, vous en ferez un procureur du roi. Monsieur Milot est nommé décidément à Nevers. Petit Clos vendra sa charge, vous obtiendrez facilement pour lui la place de second substitut, et il deviendra bientôt procureur du roi, puis président du tribunal, député. » Revenu dans la salle à manger, Francis fut charmant pour le prétendu de sa fille. Il regarda Madame de Sénon d'une certaine manière, et finit cette scène de présentation en invitant Petit Clos à dîner pour le lendemain afin de causer affaire. Puis, il reconduisit le négociant et l'avoué jusque dans la cour en disant à Petit Clos que, sur la recommandation de Cointet, il était disposé, ainsi que Madame de Sénonches, à confirmer tout ce que le gardien de la fortune de Mademoiselle de La Haye aurait disposé pour le bonheur de ce petit ange. « Ah, quelle est laide !» s'écria Petit Clos. « Je suis pris !»« Elle a l'air distinguée, » répondit Cointet. « Mais si elle était belle, vous la donnerait-on ? Eh, mon cher, il y a plus d'un petit propriétaire à qui 30 000 francs, la protection de Madame de Sénonches et celle de la comtesse du Châtelet irait à merveille. » D'autant plus que M. Francis du Hautoy ne se mariera jamais et que cette fille est son héritière. Votre mariage est fait. Et comment? Voilà ce que je viens de dire, repartit le grand Cointet en racontant à l'avoué son trait d'audace. Mon cher, M. Milot va, dit-on, être nommé procureur du roi à Nevers. Vous vendrez votre charge et dans 10 ans vous serez garde des Sceaux. Vous êtes assez audacieux pour ne reculer devant aucun des services que demandera la cour. « Eh bien, trouvez-vous demain à 4h30 sur la place du Mûrier, » répondit l'avoué, fanatisé par les probabilités de cet avenir. « J'aurai vu le père Séchard, et nous arriverons à un acte de société où le père et le fils appartiendront au Saint-Esprit. »